le Seigneur me guider sur l'attachement. Et c'est ce qu'on va parler ce matin. L'attachement, ça peut être beaucoup de choses. Est-ce qu'on est attaché au bien du monde plus qu'à notre Dieu? Un exemple, tout simple. On sait aujourd'hui que pour le préparatif des temps des fêtes, hein, même on a parlé tantôt, il va y avoir des actions. Il faut quand même brasser le bouillon pour qu'il vienne, qu'il prenne pas au fond. Il faut quand même pétrir la pâte pour faire du pain ou des pâtes à tarte ou des gâteaux. Donc, c'est toutes des activités. Et Seigneur, il sait qu'on est occupé. Pourquoi? Parce qu'on peut se réjouir ensemble. Mais la bonne raison, c'est se réjouir pour lui, ensemble. Fait que tout le travail qu'on peut faire, il ne faut pas que ça nuise à l'œuvre de Dieu dans nos vies. Je ne sais pas pourquoi que Suzanne est là-bas. Cachée. Elle est cachée. Alors, on va remettre ce temps dans les mains du Seigneur. Papa du ciel, on est heureux ce matin d'être ensemble avec tes enfants dans ton Église. On est heureux, Seigneur, que tu viennes nous aider à percevoir et à attraper, Seigneur, le message que tu veux pour chacun de nous. Merci, Seigneur, de nous donner avec tant d'abondance. Tes Écritures sont pleines, sont remplies, Seigneur, de messages, d'idées, d'études. Et, Seigneur, tu nous combles à chaque fois qu'on met le nez dedans pour faire des lectures, des études. Tu nous combles et tu nous aides, Seigneur, en plus, à bien comprendre, à bien saisir ce que tu nous dis, ce que tu nous révèles, et que ton Esprit Saint nous aide à mettre en pratique. Oui, Seigneur notre Dieu, merci de venir à notre secours bien souvent. Merci de nous aider à partager, Seigneur, ce que tu mets sous nos cœurs, afin que, Seigneur, que tous et chacun puissent être édifiés. Merci de ta grâce et merci de ta paix et de ton secours. Au beau nom de Jésus-Christ, amen. Merci Marlène. Le premier chant surtout. J'ai pensé à ce chant-là toute la semaine. Il fallait qu'on brille dans mon coin et les autres brillent dans leur coin. J'ai pensé à ça toute la semaine. Je ne sais pas pourquoi. Saint-Esprit est en train de me talonner, je crois bien. Mais la question qu'on doit se poser, qu'est-ce qui nous empêche d'être attachés à Dieu? Est-ce qu'on peut avoir des raisons? Je vais vous dire les miennes, et ça va être à vous de regarder en vous-même, c'est quoi qui vous empêche d'être attaché à Dieu ou prendre du temps pour Dieu? Moi, ça a été longtemps le premier exemple, j'ai trois exemples à vous donner. Premier exemple, c'était notre travail. La définition du mot « travail », j'ai trouvé ça bien comique quand j'ai lu ça, puis ça m'a vraiment frappé aussi d'un sens. Le terme « travail » trouve son origine dans le mot latin « tripalium », qui désigne un instrument de torture. Intéressant. A finalement donné naissance au verbe anglo-français « travailler ». Il signifie tourmenter. Encore intéressant. Mais aussi, plus légèrement, troubler et même voyager. Il y a eu beaucoup de traductions et d'aménagements. Le nom anglo-français, travailler, a été emprunté à l'anglais du 18e siècle. Tout comme un autre descendant de travailler, il y avait le mot travel, là, c'est pour voyager. Mais ce qui m'a amusé le plus dans cette recherche, c'était l'instrument de torture. Et on aime ça, cet instrument de torture-là. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'aimais travailler. Et j'aimais beaucoup travailler. Au point où, à l'âge où je suis venu au Seigneur en 1980, le 25 décembre, à presque 8 heures, et par la suite, je voulais vraiment que ma famille et moi, on ait ce qu'il faut pour vivre correctement, devant Dieu et devant les hommes, bien sûr. Fait que le travail est devenu un outil pour moi. J'allais travailler sur IPL les fins de semaine et je travaillais au moulin ici, à Armaux, pendant la semaine. Fait que vous savez, vous imaginez combien d'heures ça faisait par semaine. Pour venir à bout, qu'est-ce qui est arrivé au fait de compte? Le Seigneur nous a réveillés. surtout moi, parce que j'étais rendu que le travail prenait toute la place. La place de ma famille, de mes enfants, et la place aussi que je voulais donner à Dieu. Et vous savez que c'est facile. Pour quelqu'un qui aime travailler, qui aime bousculer son corps, qui aime faire des choses, commencer à ralentir, commencer à arrêter, c'est difficile. C'est difficile. Je me rappelle, les dernières années que j'ai travaillé, c'était pour Tapis Saint-Georges. La dernière année, le Seigneur me ralentit. Je ne voulais pas ralentir, mais le Seigneur m'a ralenti. Ça, c'était en 2003. Où est-ce que pour la première fois, à côté de mon patron, j'ai tombé sur le côté à côté de mon patron. Et mon patron, Alexandre Lacroix, il me dit, « François, qu'est-ce qui se passe? » Ben, je ne sens plus mon genou. Et pourtant, Alexandre, il savait que je travaillais longtemps parce que je faisais autant d'heures supplémentaires que d'heures travaillées par semaine, puis Marie-Paul peut vous le dire aussi. J'aimais ça, je travaillais, je faisais du développement, je faisais toutes sortes de choses dans l'industrie. Je mettais toutes mes connaissances que j'avais en pneumatique, en hydraulique, en tout ce que vous voudrez. Mais tu sais, comme on dit, j'étais un bon chômeur instruit. Et ça n'a rien fait de mieux dans ma vie, tout ça. Mais seulement ma femme, mes enfants, l'Église, j'étais pas là. J'étais au travail. Je faisais que travailler. Et ça, c'est une raison qui m'a emmené à réfléchir beaucoup. Bien que le Seigneur ait rencontré le médecin à la suite d'avoir tombé à chaud, Mme Lantagne, elle me dit, « François, t'arrêtes. J'arrête quoi? T'arrêtes de travailler. » Je ne sais pas si vous seriez surpris de vous dire que votre médecin vous dise, « Demain, t'arrêtes. T'as pas le choix. » Si tu n'arrêtes pas, tu ne seras plus capable de marcher, tu ne seras plus capable de faire à rien. Dans ma tête, ça n'a pas été facile. Dans mon cœur non plus. Mais j'ai dû me plier et le Seigneur est en train de m'arrêter. C'est lui qui m'a arrêté, c'est pas moi. Puis un verset que j'aimerais vous citer, j'ai fait beaucoup de recherches à la suite de la demande de mon médecin, il dit, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux pour ma vie de famille, ma vie d'église, ma vie avec toi? Qu'est-ce que tu veux? » Et j'ai tombé sur un verset de l'Ancien Testament qui me turlupine encore. Dans Agé 2,17, « Je vous ai frappé par la rouille et par le niel et par la grêle. J'ai frappé tout le travail de vos mains. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. » Intéressant comme verset, hein? Si on ne s'arrête pas pour prendre du temps avec le Seigneur va nous arrêter. Je peux vous témoigner que ça arrive et que c'est vrai. Que le Seigneur va vous arrêter comme il m'a arrêté. Si on n'apprend pas simplement avec les conseils de Dieu, Dieu a bien d'autres moyens pour nous arrêter. Il peut nous toucher où ce qu'on est, on pense être le plus fort, et bien souvent c'est là qu'il nous touche. Aussi dans 1 Corinthiens 15:58, qui est l'inverse de mettre du temps et de s'accorder du temps avec Dieu, c'est dit au verset de 1 Corinthiens 15:58. « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. » Complètement l'inverse. Mettez tout ça dans les mains du Seigneur, fiez-vous pas sur vos forces, vos bras, sur vos jambes, sur vos dos. Fiez-vous sur ce qui est dans votre âme, qu'est-ce qui est dans votre cœur, qu'est-ce que Dieu lui a mis. Et travailler avec ça afin que l'œuvre de Dieu grandisse premièrement en moi, en vous, après ça dans vos familles, dans vos affaires. C'est un travail qui se met de missionnaire. Mais il faut que ça se fasse de la bonne façon. Et comme on dit des fois, il y en a qui apprennent facilement, il y en a d'autres qui apprennent à la dure. Mais le Seigneur est toujours là et est toujours présent et il veille. Si tu ne veux pas écouter d'une façon, tu vas écouter de l'autre. C'est lui qui est le patron, c'est lui qui est le boss. C'est pas nous. Dans 2 Jean 1, 8, c'est très intéressant le verset aussi. Prenez le temps, si vous voulez, de vérifier ces versets-là, parce que c'est des versets qui parlent quand même assez fort. 2 Jean 1, 8. Quand on a connu Dieu, qu'on sait que Dieu existe, qu'il est là, il faut prendre garde. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Prenez garde. Seigneur, donne un avertissement. Tu fais des choses pour moi, c'est bien correct, mais les fais-tu vraiment pour moi ou si c'est pour te justifier ou te dire, regarde, j'ai encore fait ça. Donc, prenons garde que ce qu'on fait pour Dieu, ça vient de lui et c'est pour lui. Pas pour se péter les bretelles ni se glorifier. Ce que l'on croit être bon pour plaire à Dieu, c'est souvent pas ce que lui, il veut. Alors, je réfléchis à ça. Mais faire toutes sortes de choses pour Dieu, mais vous prenez le temps de le consulter. Autrement dit, la phrase dit d'une autre façon. Avez-vous pris le temps de consulter le Seigneur pour... Moi, j'avais l'impression, quand je travaillais puis je faisais de l'overtime à tour de bras, je voulais gagner plus d'argent pour être capable de donner plus à l'Église et être capable aussi de faire vivre ma famille honorablement. Il n'y a rien de mal là-dedans, travailler, mais trop, c'est comme pas assez. Trop, quand tu dépasses la capacité que tu as, le physique que tu as, tu en payes le prix. Et ça, c'est sûr. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de faire cela? Même si vous allez donner plus à l'Église parce que vous gagnez plus? Est-ce que c'est ça que Dieu veut? Ou s'il veut que tu aies un équilibre entre ton travail, entre ta vie chrétienne, entre ta vie famille, entre ta vie d'Église? Est-ce que Dieu ne veut pas plutôt un équilibre? Et moi, je crois que oui. Et travailler plus pour donner l'Église, non. Ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas l'idée que Dieu a de son Église. Parce que Dieu, il aime qu'on dépende de lui. Et si on dépend de lui, bien, s'il y a un besoin, que ce soit dans l'Église, dans la famille ou peu importe, on va aller faire comme le roi David, on va aller se lamenter au Seigneur. Ah, moi, quand je lis le roi David, toute sa vie, tout ça, moi, je le trouvais bien un lamenteux. Il était tout à l'heure, Seigneur, donne-moi ci, enlève ça, mais sauve-moi, aide-moi. Et pourtant, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Fait que le Seigneur, il veut qu'on n'aille pas avec nos forces, nos idées, nos affaires, d'aller mieux pour être capable de donner ou aider l'Église. Non, non. Il veut qu'on lui demande. Seigneur, peux-tu m'aider à te donner plus? Mais à lui. Donc, dans Marc 12, 42 à 44. J'aime beaucoup ces petits versets. Ça dit, il vient aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart dessous. C'est beaucoup, cela, là. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, pourquoi il a appelé ses disciples? Il veut les enseigner. Il veut leur montrer quelle richesse que lui dépend. Donc après avoir appelé ses disciples, il leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Surprenant, hein? Un quart de sou. Je pense qu'aujourd'hui, on gagne un petit peu plus que ça. Je pense qu'aujourd'hui, on aurait besoin de réfléchir la façon qu'on donne à Dieu. Pas que l'argent, là. Notre temps, nos loisirs, tout cela, qu'est-ce qu'on fait pour Dieu vraiment? Pas simplement que des apparences, là. Vraiment pour Dieu. Vous savez que Dieu ne regarde pas aux apparences, mais au cœur de l'homme et de la femme. Personne ne peut s'en sauver. Dieu connaît le cœur de chaque être humain. Maintenant, on va parler de notre temps mal géré ou bien géré. Avons-nous des pertes de temps dans les loisirs ou dans diverses activités? Cela nous fait-il oublier notre temps avec Dieu? Oublions pas que notre temps est précieux avec Dieu, dans sa parole, avec nos frères et sœurs. Vous savez, combien d'églises n'ont plus de réunion de prière? C'est qui a tué la réunion de prière? Le manque de dévouement, le manque d'assistance, le manque d'implication. C'est tout ça, on a peut-être préparé. C'est certain qu'il y en a qui travaillent le mercredi soir. Ce n'est pas ceux-là que je veux parler non plus. Il y a toujours des circonstances, il y a toujours des choses. Mais dans le général, quand qu'on peut, pourquoi qu'on n'est pas là? Peut-être écouter une game de hockey. Moi, pour ma part, ce serait un bon film. Mais qu'est-ce que c'est qui nous empêche d'être là? Et c'est des questions que je me pose. Et des fois, je dois vous dire que je suis obligé de me botter un peu le derrière pour bouger. Parce que c'est facile de se laisser endormir avec les... Ah, ça va être qu'une fois de temps en temps, c'est pas grave. Mais cela est très grave, au contraire, parce qu'on s'endort tranquillement. Et s'endormir tranquillement nous amène à mener au profond sommeil, où est-ce qu'on n'est plus là? Donc, dans les versets d'Éphésiens 5, 15 à 17, ça nous parle un peu de cela. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et dans nos vies, dans nos loisirs, on doit inclure le Seigneur. On va avoir une belle occasion d'avoir des loisirs, là. Festivité de Noël. En plus, Jean-Marc, on peut inviter des invités. Jusqu'à 10. Mais on peut inviter. On va se réjouir. On va avoir des loisirs. Il y a beaucoup d'autres loisirs qui sont corrects, qui sont sains, là. Mais peu importe le loisir, si ça prend la place de Dieu, non. Ce n'est pas la volonté de Dieu à ce moment-là. C'est la volonté de mes désirs, de mes idées et des choses que je vois, que je pense qui sont bonnes pour moi. Maintenant, une autre question. Notre travail... Le temps mal géré. Et ça, dans le temps que je travaillais à Tapis-Saint-Georges, je peux vous dire que mon temps était très mal géré. Pourtant, j'étais à l'heure à shop, j'étais à l'heure en maison pour le souper, mais entre les deux, j'étais au travail. Pas d'autre chose. Mais où était le temps pour Dieu? Même si je prenais la cassette du message du pasteur du dimanche et je la portais au patron qui l'écoutait, il me revenait parce qu'il le connaissait. Même si je faisais ça, je n'étais pas à la place que je devais être. Je devais mettre de l'ordre dans ma vie, dans ma relation avec ma famille, ma relation avec l'Église, ma relation avec Dieu. Parce que je prenais trop de temps pour une chose et j'oubliais les autres. Donc, notre vision de l'œuvre de Dieu, on peut créer un modèle de l'œuvre de Dieu si on veut. Légaliser les Écritures, prendre une partie des Écritures, puis c'est comme ça que ça marche. Un cadre pour notre vie chrétienne. Regarde, moi, je vais cadrer ça comme ça, là. Puis je vais rouler là-dedans, puis je vais être correct. M'excuse, mais ça ne fonctionne ni un ni l'autre. Parce que la vie avec le Seigneur, savez-vous c'est quoi? C'est une vie d'aventure. Vous ne me ferez pas croire que Dieu, vous pouvez croire qu'est-ce que Dieu va faire demain. Personne n'est capable. C'est lui qui décide qu'est-ce qui va se passer demain, qu'est-ce qui va se réagir demain. On a des belles maisons, on a des belles choses, mais qu'est-ce qui peut nous arriver à un moment donné, on peut tout perdre. J'ai connu des amis, puis ils ont tout perdu. Ils travaillaient fort, ils allaient à l'église, ils étaient corrects selon l'apparence qu'ils avaient. Mais à un moment donné, le poste de travail était coupé. La maison de 200-300 000 a pris le bord, les voitures neuves ont pris le bord. Est-ce qu'ils étaient des mauvais chrétiens pour autant? Non. Mais Dieu avait décidé que c'était comme ça. Et vous savez, on est tous pareils. On aime tous avoir des belles choses, mais premièrement, on devrait se concentrer et vérifier sur ce que Dieu veut pour notre vie. Et si même dans l'Église ici, ben là, l'Église, il faut qu'elle marche comme moi je veux qu'elle marche. Mais c'est pas ça que Dieu veut. Il y en a beaucoup qui vont fonctionner sur top, tout classé. C'est bien. Mais des fois, Dieu déclasse. Et là, ben, si tu es trop accoutumé à René classé, ben, tu te dis, voyons, Seigneur, pourtant, regarde, j'ai tout mis ça correct, là. Non, le Seigneur, moi, c'est pas comme ça. Je pense surtout à la femme adultère qui était devant un paquet d'hommes qui l'accusaient. Selon la loi, selon ce qui était écrit, tout était correct, tout était clair et net et précis. Quand que Jésus s'est levé, il nous a dit que celui qui est sans péché, tire la première pierre. Qu'est-ce qui est arrivé? Tous ont reculé, tous sont partis. Et qu'est-ce que Jésus a dit à cette femme? Personne ne t'a condamné? Ben moi non plus, je ne te condamne pas. Toutes les personnes du Sanhédrin et ceux qui accusaient cette femme étaient des mauvais juifs ou des mauvais israélites? Non. Mais il y avait une idée préconçue de l'œuvre de Dieu et ce que Dieu veut. Et je dois vous dire que ce n'est pas facile pour moi non plus de trouver ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu veut qu'on vive. Est-ce que vous pensez que j'avais pensé que Dieu pouvait m'arrêter de travailler avec mes jambes et mon dos? Ça arrive à tout le monde, ça. Il n'y a personne qui est exempt de quoi que ce soit. Priez au contraire le Seigneur de vous garder. Et moi, je demande au Seigneur, « Seigneur, j'en ai pas mal de perdu. Tu veux-tu m'aider à garder le reste? » Des fois, on n'est pas conscient de ce que Dieu fait autour de nous parce qu'on n'écoute pas ce qu'il nous dit. Donc, dans Colossiens, avant un petit peu, les gens mettent des conditions de toutes sortes d'actions et même des traditions dans le but de plaire à Dieu, mais ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. N'oubliez pas ça. Colossiens 2, les versets 20 et 23, à 23. Si vous êtes morts avec Christ aux rudiments du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, nous en imposons ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus. qui ne sont fondées que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils sont à la vérité une apparence de sagesse, en ce qu'il indique un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. C'est loin de la satisfaction de Dieu, c'est la sanctification de la chair. Hein, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, ne fais pas. Toutes des choses que, quand les êtres humains veulent diriger à la place de Dieu. Ils vont trouver toutes sortes de moyens pour vous dire, garde, tu ne devrais pas faire ça, tu ne devrais pas fonctionner comme ça, au lieu de dire, que Dieu t'instruise, que Dieu te montre. Donc, satisfons pas la chair, mais Dieu. Est-ce que c'est ce que Dieu attend de nous, d'avoir ce culte-là des apparences de sagesse, d'humilité? Devant les frères et les sœurs, oh, on est correct, écoute un peu. On est humble, on se tient dans notre petit coin, on ne parle pas trop. On est sage parce qu'on ne fait rien de travers. Vous savez, Dieu il aime bien qu'on soit pas parfait, parce qu'il veut nous rendre parfaits. C'est pas à nous à penser qu'on peut devenir parfait, c'est Dieu qui va nous rendre parfaits. Essayons pas d'être parfaits aux yeux des autres non plus, parce qu'on est tous des pécheurs perdus, mais avec Jésus-Christ dans notre vie, l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, on est sauvés, on est graciés. Est-ce que c'est nous qui l'avons fait? Non. Est-ce qu'on peut se glorifier ou se vanter d'avoir fait ces choses? Non. Parce que quand on lit dans Éphésiens, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Je pense que c'est assez clair. Et la direction de l'Église de Dieu, comme la direction de vos vies, ne dépend pas de vous. Elle dépend de Dieu, parce que vous dépendez comme moi je dépends de Dieu. Sinon, quelle sorte de vie chrétienne on aurait? Une vie qui ressemble au monde, se conformer, faire attention pour ne pas trop déranger. Est-ce que c'est ça? Non. Dans le psaume 51, verset 17, ça dit, en plus, Dieu veut notre liberté. Et la plus grande liberté, savez-vous, c'est quoi? Vous pouvez répondre, j'espère que vous n'êtes pas tout endormi. Hein, la plus grande liberté, savez-vous, c'est quoi? Vous l'avez tous, si vous avez accepté Jésus-Christ. Vous êtes libérés de vos péchés et de vos iniquités. C'est la plus grande liberté que Dieu peut vous donner. Et cette liberté vous permet d'accéder au trône de gloire. Elle vous permet, au jour où vous allez partir pour le ciel, d'être avec le Seigneur pour l'éternité. Quelle liberté que le Seigneur nous donne et qu'il nous a donnée. Dans le psaume 51, verset 17, ça dit, « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas non plus un cœur brisé et contrit. » Hein, quand on dit, hein, un esprit brisé, quand ton esprit est troublé, brisé, il a besoin de comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Il a besoin de te dire, garde, je veux te montrer, je veux t'éduquer, je veux t'enseigner. Et vous savez que quand j'ai découvert tous ces versets-là il y a quelques années, j'ai compris que je devais dépendre absolument juste du Seigneur. J'étais incapable de travailler. Et pour un gars qui a travaillé presque toute sa vie, 20 ans de Moulincy, 7 ans et demi de tapis. Tout le monde marchait sur ma job. Je faisais du tapis. Hein? Mais j'avais besoin que Dieu me brise. Et il a brisé mon esprit de vouloir rouler, vouloir faire des choses par moi-même. Il l'a brisé. Et j'ai dû apprendre à Dieu à me laisser m'enseigner, à laisser me faire comprendre et saisir les choses et de plus en plus me fier sur lui. Ésaïe 57, 15. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Fait que si Dieu veut se servir de vous, il faut qu'il puisse vous diriger, il faut qu'il puisse vous enseigner, il faut qu'il puisse vous montrer les choses qu'il veut faire. Ça, vous avez ça, un exemple de ça avec Abraham. Quand que Dieu a été pour détruire Lot, qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Passerai-je à côté de mon serviteur sans lui dire qu'est-ce que je vais faire? Et Abraham a écouté et même négocié. Fait que ce verset-là me fait beaucoup penser à ça parce que Abraham négociait dans le sens, s'il y a quelqu'un qui a le cœur correct, est-ce que tu vas détruire Sodome et Gomorrhe? Nous, est-ce qu'on dit à Dieu, Seigneur, tu sais que je te suis, je t'écoute, tu m'enseignes, tu veux... Mais, Seigneur, j'ai encore une fille qui ne te suit pas. Pourrais-tu m'aider? Pourrais-tu me dire comment qu'on pourrait faire pour l'emmener à toi? Donc, le même Dieu qui créa le ciel séjourne dans la sainteté parfaite. Pour y avoir une demeure digne de lui, ne dédaigne pas d'habiter dans le cœur même du pécheur. S'il s'humilie, l'humiliation remplacera aux yeux du Seigneur la sainteté qui manque encore à l'homme, et sa présence créera un ciel intérieur de paix et de joie dans l'âme auparavant privée de cette consolation. Est-ce que ça vous intéresse? Quand je faisais l'école du dimanche, je disais ça à mes petits bouts. Est-ce que ça vous intéresse que Dieu vienne habiter en vous? Est-ce que ça vous intéresse que Dieu vienne vous éduquer, vous instruire, vous montrer les choses? Et vous savez, les petits groupes d'adolescents, il y avait tellement de questions. Et des bouts, j'avais tellement peu de réponses que j'étais obligé de demander à Dieu. J'ai passé des nuits à chercher des versets et des choses pour que ces jeunes-là aient le meilleur message possible. Donc, soyons consolés dans notre âme par Dieu. Ésaïe 66, 1 et 2. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône. Et la terre, mon marchepied, quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeurer? Toutes ces choses, ma main les a faites et tous ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Voulez-vous vraiment trouver l'enseignement du Seigneur, les choses du Seigneur? Ben, prenez ces deux versets-là et méditez dessus. Que faire alors pour rester attaché à Dieu? 1 Corinthiens 7, 35. L'apôtre Paul, ici, il y a un contexte assez intéressant de choix entre mariage et non-mariage, et vœux et non-vœux dans le contexte qu'on parle. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bien séant. À propos, à vous attacher au Seigneur sans distraction. Hein? Est-ce que quand vous étudiez les Écritures, quelque chose, vous écoutez à la TV en même temps? J'espère que non. J'espère que vous trouvez un lieu tranquille pour ne pas avoir de distraction, pour être capable d'étudier et faire le culte qui est convenable. 1 Corinthiens 6, 17. Ça nous dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Si vous êtes attaché vraiment au Seigneur, vous allez comprendre parce que ça va être spirituel, qu'est-ce qui va se passer entre vous et lui. Ce ne sera pas l'émission de TV qui apparaîtra. Ça va être la TV céleste qui vient de Dieu. L'autre verset dans cette situation, Éphésiens 1, 18, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Aimeriez-vous avoir cet héritage-là? C'est réservé, Dieu veut vous la donner. Ah, puis là, on va regarder un personnage, c'est assez intéressant. Yolande, je vais sauter quelques versets, là. OK, parce que le temps passe vite. Jésus pouvait-il faire ce qu'il voulait? Avez-vous une réponse? Non, il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Il ne pouvait pas. Pourquoi? Jean 5, 19. Je vais laisser le temps un peu à Yolande. Jean 5, 19 nous dit, Jésus reprit donc la parole et leur dit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. » Pensez-vous que vous êtes mieux que Jésus-Christ? Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Mais nous, est-ce qu'on peut faire tout ce qu'on veut à ce moment-là? Si même le Fils de Dieu ne pouvait pas, parce qu'il voulait comprendre, et surtout nous faire comprendre qui était son Père. S'il voulait nous faire comprendre qui est son Père, il fallait qu'il fasse ce que Dieu lui demandait. Il ne fallait pas qu'il fasse, « Oh ben, Seigneur, attends un petit peu, là, m'aller prendre une petite raille avec mes disciples, on va revenir tantôt. » Il ne pouvait pas faire ça. Un autre verset là-dessus. Jean 5, 30. Et c'est là aussi que c'est intéressant. Je ne puis rien faire de moi-même, cela que j'entends. Je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Hein? Si Jésus, qui est censé être notre modèle, est celui qui nous montre la voie, comment nous, on peut prendre des décisions? Comment, nous, on peut gérer toutes sortes de choses sans que Dieu nous ait inspiré ces choses? Si on n'est jamais dans la parole de Dieu, si on n'est jamais en communion avec des frères et sœurs, si on n'est jamais ça, où est-ce qu'on est? Il y en a qui vont dire, on est peut-être sur une autre planète, là, mais en réalité, vous n'êtes ni dans le monde, ni avec Dieu. Vous êtes dans votre état personnel. Et poursuite, et nous, que devons-nous faire? Acte 19, 36. Cela étant incontestable, vous devez vous calmer. à ne rien faire par précipitation. N'oubliez pas que le Seigneur, lui, a l'éternité. Il a le temps en masse. Prenons le temps de faire les choses et déjà là, ça va nous faire avancer. Romains 14, 13. Ça, c'est une chose qui est importante dans la vie d'Église aussi. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Est-ce que Jésus était venu pour faire tomber un paquet de monde? Non. Il était venu pour les sauver, les arracher aux malins et les emmener auprès de son Père. 1 Timothée 5, 21. Ça nous dit, « Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. » Ah ben, moi j'en ai un prédicateur, là. Écoute, je vais tout faire pour lui. Ça, c'est des faveurs. Au contraire, fais rien pour lui, prie pour lui à place. Ça va être pas mal plus correct. Jean 15, 4. Demeurez en moi et je demeure en vous. Comme le servant ne peut de lui-même porter du fruit s'il demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Et le verset qui suivit, 15, 5, « Je suis le serment et vous êtes le serment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Encore là, l'attachement au Seigneur. Ma petite conclusion. Pensez-vous que notre attachement au Seigneur peut influencer notre témoignage? Hein? Si nous sommes attachés plus au monde qu'à notre Dieu, notre témoignage ressemble au monde et non à celui du Seigneur. Alors, nous ne pouvons pas transmettre les vérités du Seigneur. Bien sûr, on ne les sait pas. On n'est pas attaché à lui. On ne le sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qu'il veut qu'on demande. Ou... On ne sait pas. Parce que on s'est attaché plus à nos bébelles, au monde, qu'à notre Dieu. Car notre témoignage ne diffère pas du monde. Et le monde ne peut voir en nous cette différence. Est-ce que les gens s'apparaissent quand vous lui parlez ou que vous les rencontrez ou que vous visitez des gens, vous arrivez? Est-ce qu'ils s'aperçoivent qu'il y a une différence en vous? Cela dépend de votre, premièrement, de votre témoignage physique, sans parole, et ensuite, avec celui que vous allez dire, qu'est-ce que Dieu a fait pour vous? Pas lui dire, « Hey, moi, je connais ma Bible, je peux tout faire. » Non, 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 non. Ça, c'est sans intelligence et sans sagesse. Puis de dire, tu sais, mon ami, j'étais tellement faible, j'avais tellement de péchés, j'avais tellement de problèmes que Dieu est venu me secourir. Il est venu m'aider. Et je suis sûr que ça va faire une différence. Que Dieu a créé en nous par le salut, cette différence. Dieu nous l'a donné par pure grâce. On n'a rien mérité là-dedans. C'est par pure grâce. Le témoignage, alors, ne peut faire la différence. Pour faire la différence, il faut qu'il reste attaché au Seigneur. Si vous n'êtes pas attaché au Seigneur, vous ne pouvez pas communiquer parce que vous n'êtes pas attaché à lui. Dans les deux derniers versets, Romains 18, c'est dit, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, C'est la parole de la foi que nous prêchons. Ce n'est pas la parole de tes désirs. Ce n'est pas la parole de mes idées, de mes actions. Mais c'est la parole de la foi que j'ai mise en Jésus-Christ. Et c'est ça qu'on prêche. 1 Pierre 2, 4, le dernier des derniers versets, et non le moindre. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Accrochez-vous, Seigneur. Attachez-vous à lui. Il va être tout prêt. Il va vous révéler, il va vous aider. Même des fois, il prend les devants. Et c'est beaucoup plus facile de laisser le Seigneur faire que de nous essayer de faire quelque chose. Prions ensemble. Papa du ciel, à travers toutes ces écritures, à travers, Seigneur, ce voyage que tu permets qu'on fasse, dans nos réflexions, nos recherches, les idées que tu nous donnes, et Seigneur, ne permets pas que ce soit notre chose, mais la tienne. La tienne qui prévoit, comme Jésus a dit à Gethsémané, non pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne. Qu'on puisse réaliser qu'on est des êtres faibles, sans force, sauf, Seigneur, quand tu mets ta main. C'est là que la force arrive, c'est là que les choses s'éclaircissent et qu'on voit, Seigneur, ton œuvre et qu'on puisse y participer. Merci de cette grâce, Seigneur, que tu nous as faite. Merci, Seigneur, de ne pas avoir, surtout pour moi, de ne pas m'avoir mis de côté, mais avoir été toujours là afin de m'aider à comprendre et à saisir, Seigneur, ce que tu avais pour moi et qu'est-ce que tu avais pour les autres. Et Seigneur, on te remercie des témoignages aussi qu'on peut rendre, que des choses que tu as faites dans nos vies. Que les gens autour de nous, à la veille de Noël, à la veille des activités d'Église, Seigneur, attendris les cœurs comme tu faisais avec Pharaon et comme tu as fait avec beaucoup. Attendris les cœurs, Seigneur, mets-les prêts. Et les nôtres, Seigneur, travaille-les afin qu'on soit des ouvriers et des serviteurs fidèles. Afin de démontrer non pas nos idées, mais les tiennes, ta volonté, et qu'on puisse continuer, Seigneur, à travers ce qui arrive, peu importe. Tu es là, tu es présent, et tu veilles, et tu nous gardes. Bénis le reste de cette journée, Seigneur, de ce culte, au beau nom de Jésus-Christ. Amen.